Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Échos d'Innovation, l'émission 100% UTCN qui vous est proposée par Graphite 94.9. Dans cette émission, on s'empare des thèmes sociétaux, économiques, écologiques et bien d'autres et on vous les présente sous un nouvel angle, d'une part en les confrontant à la science, mais aussi par le biais de chroniques, de mini-jeux et de petits débats. Et aujourd'hui, on parle de religion. Je ne serai pas tout seul aujourd'hui pour parler de ce thème. Je suis donc accompagné de mes fidèles et merveilleux confrères, Margot.
Salut.
Mehdi.
Bonjour.
Anna.
Bonjour à tous.
Oscar.
Salut.
Jason.
Bonjour.
Suleiman.
Salut.
Et de moi-même. Et enfin, un nouvel invité mystère. Voici Nicolas.
Salut.
Il fait donc partie de l'association Communauté chrétienne étudiante de Compiègne, association qu'il aura l'occasion de présenter plus tard dans l'émission. Donc pour revenir au sujet d'aujourd'hui, on va parler d'un thème qui vous est plus ou moins familier, mais qui, quand il est confronté à un mode de pensée scientifique, est source de nombreuses controverses. Les différentes chroniques d'aujourd'hui permettront donc de déconstruire certaines idées liées à cette relation complexe qui existe entre religion et science, mais aussi à vous faire découvrir de nouveaux concepts. Nous serons donc amenés, durant cette heure, à, et par le moyen de différents argumentaires et de débats, à nous demander si la religion est un frein pour la science, et inversement, ou si, au contraire, l'un est un moteur pour l'autre. J'en ai donc fini de ma petite introduction du jour, et je laisse place au jingle. Nous allons donc commencer cette émission en rappelant quelques petits termes et quelques petites définitions quand on parle de religion et notamment celle de laïcité. Je vais donc laisser la parole à Jason pour cette première partie.
Bonjour à tous. Donc, je vais vous faire une idée reçue concernant la science et la religion. Aujourd'hui, la science explique comment la vie est arrivée sur Terre, comment l'univers est né ou encore explique les raisons des maladies et des famines. On a donc tendance à croire que la science est en voie de remplacer la religion du fait qu'elle réussit à répondre à de plus en plus de questions et à dissiper de plus en plus de mystères. Néanmoins, la science ne répond toujours pas et ne répondra jamais à certaines questions plus existentielles. Quel est notre but? À quoi nous servons? Comment nous sommes arrivés à être ce qu'on est? En fait, on a tendance à rapprocher et comparer les termes de science et religion alors qu'ils ne traitent pas les mêmes sujets de la même approche. Alors que la science traite le comment, la religion traite plutôt le pourquoi. Même Darwin, alors qu'il publie la théorie de la sélection naturelle pour expliquer l'origine des espèces, avoue vers la fin de son essai que même s'il hésitait à attribuer autant de merveilles et d'immensité au pur hasard, il ne se résignait pas à invoquer l'intervention d'un être suprême qui aurait choisi la destinée de la vie. Cette question de religion et science, je l'ai déjà eue avec des amis après avoir passé la soirée à discuter de tout et de rien. Un de mes amis était religieux, étant religieux, nous expliquait qu'il avait remis en cause sa croyance, notamment au lycée lorsqu'on nous expliquait tous les phénomènes de la vie et de la physique. Mais il s'était rendu compte que seule la religion lui donnait une réponse à certaines de ses questions. Lorsque lui prêchait Dieu pour expliquer que le Big Bang était survenu, lorsque lui prêchait Dieu pour expliquer que l'évolution de la vie avait créé l'homme, moi je prêchais le hasard. J'ai compris à ce moment-là que nous soyons athées ou religieux, on conçoit que la science a ses limites. Tout le monde a une théorie pour expliquer le pourquoi. Pour certains, c'est Dieu, pour d'autres, c'est le hasard, ou encore bien d'autres choses. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la science ne peut être invoquée pour justifier que croire est inutile.
Merci à toi, Jason, pour du coup ce bref rappel sur la laïcité. Maintenant, on va passer à la première chronique de l'émission concernant les scientifiques religieux. Une chronique qui vous est présentée par Suleiman.
Alors pendant les prochaines 6 minutes, nous allons explorer la relation complexe entre la foi religieuse et la quête de la connaissance scientifique. La coexistence de la science et de la religion a souvent été l'objet de débats passionnés et parfois conflictuels. Certains estiment que ces deux domaines sont incompatibles, tandis que d'autres voient une complémentarité entre eux. Les scientifiques religieux incarnent cette intersection où la foi et la raison se rencontrent. L'un des exemples les plus emblématiques de scientifiques religieux est Galilée. Ce célèbre astronome italien du XVIIe siècle a été persécuté par l'Église catholique pour avoir soutenu la théorie héliocentrique, qui affirmait que la Terre tournait autour du Soleil. Cette théorie contredisait l'enseignement biblique de l'époque, selon lequel la Terre était au centre de l'univers. Malgré cette opposition, Galilée n'a jamais renié sa foi en Dieu. Il croyait que la science et la religion pouvaient coexister et se compléter mutuellement. Au XXe siècle, le physicien et prêtre catholique belge Georges Lemaître a proposé la théorie du Big Bang, cette théorie cosmologique qui postule l'expansion de l'univers à partir d'un point singulier. A révolutionné notre compréhension de l'origine de l'univers, Lemaître a souligné que le Big Bang était compatible avec la création divine, montrant ainsi que la science pouvait éclairer la foi religieuse. Cependant, il est important de noter que tous les scientifiques religieux ne sont pas chrétiens. Il existe des chercheurs de différentes confessions religieuses, telles que les musulmans, les juifs, les hindous et d'autres, qui intègrent leur foi dans leur travail scientifique. On peut citer par exemple Ibn al-Haytham, également connu sous le nom d'Al-Hazan, était un érudit polymathe musulman du XIe siècle. Il est surtout reconnu pour ses contributions dans le domaine de l'optique. Mais il a aussi joué un rôle essentiel dans l'avancement de la compréhension de la lumière et de la vision et des phénomènes optiques. L'intérêt d'Ibn al-Haytham pour la science n'a jamais été un conflit avec sa foi islamique. Au contraire, il voyait la science comme un moyen d'explorer la création divine. Sa conviction en la rationalité de l'univers l'a amené à entreprendre des recherches scientifiques approfondies, tout en maintenant une profonde piété religieuse. Ainsi, Ibn al-Haytham est un exemple emblématique de la manière dont la science et la foi peuvent coexister harmonieusement dans la vie d'un scientifique religieux. Ses contributions à l'optique et à la méthode scientifique continuent d'influencer la science moderne et son histoire rappelle que la quête de la connaissance scientifique peut être guidée par la foi religieuse tout en respectant les principes de la méthode scientifique. La relation entre la science et la religion reste complexe et nuancée. Certains scientifiques religieux trouvent que leur foi renforce leur engagement envers la recherche scientifique en les incitant à explorer la beauté de la complexité de la création de Dieu. Pour d'autres, la religion offre un cadre moral et éthique qui guide leur pratique scientifique. Cependant, il y a aussi des tensions. Les conflits surgissent lorsque des croyances religieuses entrent en contradiction directe avec les preuves scientifiques établies. Dans de tels cas, les scientifiques religieux se trouvent parfois confrontés à des dilemmes difficiles et certains choisissent de privilégier la foi sur la science. En fin de compte, les scientifiques religieux illustrent la diversité des réponses humaines à la question fondamentale de la relation entre la foi et la raison. Certains voient un terrain d'entente, tandis que d'autres naviguent avec précaution dans les eaux parfois tumultueuses de ces deux domaines. Cette chronique touche à sa fin, mais le débat sur les scientifiques religieux et leur rôle dans notre compréhension du monde continue. Il nous rappelle que la quête de la connaissance scientifique et la recherche spirituelle sont des aspects intrinsèquement humains qui, d'une manière ou d'une autre, continueront à se croiser et à s'influencer mutuellement.
Merci beaucoup, Suleyman, pour ton intervention. Maintenant, on va essayer de se détendre un peu et on va écouter une petite musique toujours en rapport avec notre thème d'aujourd'hui. Je vais donc laisser Mehdi nous présenter une de ses musiques de sa collection personnelle.
Alors à vrai dire, pour cette première recommandation, j'ai un peu m'écarter de la pure recommandation musicale et j'ai plus parlé un peu culture. Avec une recommandation culturelle. Alors, à votre avis, quel est le lien entre les fréquences allant de 20 Hz à 20 kHz et le monastère bénédictin de Montcassin en Italie au 8e siècle de notre ère ?
Peut-être le son de la cloche ?
Non, mais ça aurait pu. Alors, les fréquences de 20 Hz à 20 kHz, je vais faire une petite parenthèse scientifique. Donc, c'est le spectre de fréquences audible par l'homme. Et cela se fait par, via les cils de la cochlée, qui un organe de l'oreille interne qui est capable de détecter chaque fréquence. Et donc, encore une autre parenthèse, si un jour vous entendez un acouphène, c'est que vous ne pourrez plus jamais entendre cette fréquence-là. Donc voilà, c'est un petit fun fact. Mais je continue avec mon histoire. Donc, le monastère de Montcassin en Italie est le lieu de la création d'un poème écrit par Paul Diacre entre 730 et 799, qui s'appelle l'hymne à Saint-Jean-Baptiste. Donc je vais vous le lire en français pour pas bafouer le latin. « Pour que puissent résonner des cordes détendues de nos lèvres, les merveilles de tes actions enlèvent le péché de ton impur serviteur, ô Saint-Jean. » Et donc, ce poème va rester un peu dans... Il va passer de monastère en monastère et il va rester un peu caché pendant des siècles, enfin pendant deux siècles, jusqu'à ce que Guido d'Arezzo, un théoricien de la musique, s'inspira de cet hymne pour trouver un nom à chaque note de l'octave. Et donc, en latin, ça commence par ut, ut que ant laxis, re sonare, mi, fa, sol, la, et sancte ionaes, donc s, i. Donc, ut, re, mi, fa, sol, la, si. Ça vous fait certainement penser à do, re, mi, fa, sol, la, si. Et donc, c'est comme ça qu'il va donner une note à chaque nom, un nom à chaque note. Avant, on utilisait les lettres A, B, C, D, E, F, G, comme on le fait encore dans les musiques anglo-saxonnes. Et ça s'est ressenti plus... Enfin, dans toute l'Europe occidentale, on a utilisé ces do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Et donc, le do est apparu au XVIIe siècle par Bononcini dans Musico Pratico en 1673. Mais on retrouve toujours le luth, pour ceux qui ont fait du solfège, dans les clés d'ut, utilisé, il me semble, pour les clarinettistes. Et voilà. Et donc, c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent. Donc, un simple chant grégorien du 8e siècle a une influence monstrueuse sur toute la musique d'aujourd'hui. Et donc, je vais vous laisser avec ce chant grégorien. Donc à savoir, j'ai oublié de préciser quelque chose, c'est que les premières traces de notation de la musique, elles datent des Sumères du 9e siècle avant notre ère. Donc c'est pas les chants grégoriens qui ont réellement apporté une notation, mais c'est la notation qu'on connaît en Occident et dans presque partout dans le monde, sauf à quelques exceptions. Et donc vous venez d'écouter l'interprétation du chœur de New Orleans dirigé par Paul Moffret. Merci à vous.
Eh bien, merci à toi, Mehdi, de nous avoir partagé cet extrait d'un chant grégorien. C'était vraiment magnifique et je trouve ça toujours fou à quel point la musique, c'est ce qu'on peut faire avec la musique, en fait, avec les notes. Pour revenir à une touche un peu plus scientifique, j'ai eu l'occasion de faire un exposé justement sur la science de la musique et c'est vraiment passionnant. Ça se base sur des systèmes de ratios entre les niveaux de fréquence des notes et vraiment si vous y tenez, allez vraiment vous intéresser à ce sujet, c'est vraiment passionnant. On va maintenant passer à la partie interactive de l'émission où je vais avoir l'occasion de poser plusieurs questions à notre invité, ce qui nous permettra de découvrir comment une personne croyante et pratiquante peut concilier sa foi et ses études scientifiques. Tout d'abord, bonjour Nicolas.
Enfin, rebonjour.
Alors, première question, peux-tu te présenter et présenter l'association dont tu fais partie ?
Donc, je m'appelle Nicolas, j'ai 22 ans et donc je fais partie de l'association La Communauté Chrétienne Étudiante, qui est globalement un groupe d'étudiants, croyants ou non d'ailleurs, mais pas mal de croyants quand même, qui se réunit pour vivre des moments fraternels, donc généralement un repas convivial, il y a la messe justement pour ceux qui veulent. Et ensuite, on a des soirées généralement, soit des conférences, des discussions, ou d'autres types de soirées plus conviviales, ça dépend un peu.
Ok, donc c'est une grande famille unie. sous la même religion. J'aurais une première question à te poser. Bon, c'est un peu, ça fait un peu philosophique, ça fait un peu question de philo de terminale, mais ce serait est-il rationnel de croire en Dieu ?
Alors déjà, je pense qu'il y a deux choses différentes. Tu peux essayer de montrer rationnellement que Dieu existe ou qu'il est vraisemblable que Dieu existe, mais ça ne te fera pas forcément croire en lui. Il y a deux choses différentes. Tu peux admettre rationnellement que ta raison est limitée et que donc se prononcer sur l'existence ou non d'un être tout puissant, hors du temps et infini, quelque chose que ta raison n'est pas capable de faire. Pour pouvoir croire, en fait, il y a un pas supplémentaire qui est donc la foi. Et donc nous croyons, on pense que Dieu nous fait ce don de sa foi, c'est-à-dire de la foi, c'est-à-dire que c'est lui-même qui va te donner l'information qu'il existe tout simplement. Et la réponse du croyant, du coup, ça va être à la fois accepter ce message de Dieu qui dit bah, « j'existe et je t'ai créé tout le monde autour de toi par amour », et la confiance en cette personne. Donc quelque part, c'est faire confiance à quelqu'un, mais c'est pas pour ça que c'est pas rationnel. C'est-à-dire que généralement, t'as quand même quand tu fais confiance à quelqu'un, t'as des raisons rationnelles de le faire. Donc pour faire simple, c'est rationnel. Il peut être rationnel de penser que Dieu existe. Par contre, croire en lui n'est pas uniquement rationnel.
D'accord. Bah, c'est très complet. Merci beaucoup. J'aurais une deuxième question. Alors, est-ce une erreur de penser que la science et la religion se posent les mêmes questions ? Est-ce que l'une ne serait pas en fait une sorte de face cachée de l'autre ? Dans ce sens, la religion permettrait-elle en fait d'expliquer l'inexplicable au point de vue de la science ?
Je pense que déjà ça dépend probablement un peu des religions et de ce qu'elles disent, mais dans son essence, la religion ne va pas forcément te donner des informations sur le monde réel qui t'entoure. C'est-à-dire que la religion, c'est plus croire dans l'existence d'un être supérieur et éventuellement la prédestinée. Tu peux découler de cette religion en fait, des croyances religieuses, mais ce n'est pas pour ça que la religion en elle-même te dit des choses sur le monde qui t'entoure. Et donc, en plus de ça, la religion se pose plutôt des questions généralement métaphysiques, donc comme on a dit dans notre chronique juste avant, des questions sur la raison même de la vie, pourquoi tu es là, les causes en fait, auxquelles la science ne répond pas, enfin c'est pas dans son domaine de compétences tout simplement. Et la religion se pose aussi des questions plutôt morales et éthiques, et là encore une fois, c'est pas tellement dans le domaine, enfin dans le champ de compétences de la science de répondre à ces questions-là, c'est beaucoup plus quelque chose de philosophique en fait, tout simplement.
Ok, donc en gros, si j'ai bien compris, ça se pose pas tout à fait les mêmes questions. Du coup, ça, c'est assez complémentaire pour avoir une vision, enfin pour essayer de chercher toutes les réponses. Enfin, si on se pose des questions, aller piocher un peu dans la science et la religion pour d'un sens.
C'est plus que, en fait, la nature des questions qui sont posées sont pas tout à fait les mêmes. Comme c'était dit, oui. La science va plus se poser des questions sur les mécanismes, oui, oui. Sur ce qu'on peut observer, et la religion, au même titre que d'autres philosophies, enfin. Pour être oui. Que la philosophie va poser des questions plus, oui. Plus existentielles, justement.
La physique. Bah merci beaucoup. J'aurais une dernière question, mais avant ça, il faut que je nous resitue un peu. Alors, nous vivons depuis le début du XXe siècle un réel bouleversement au niveau de la sphère scientifique. La description de notre monde et des phénomènes qui nous entourent n'a jamais été aussi complexe et je dirais précise. On pourrait même croire que l'on s'approche petit à petit d'une connaissance, je dirais, absolue des phénomènes universels, donc de notre univers. Néanmoins, est-ce que toutes ces découvertes les plus pointues ne permettraient-elles pas justement de légitimer la pensée religieuse aux yeux de la science ? Pourrions-nous alors avoir une sorte de coexistence entre les deux concepts ?
Ce qui est sûr, c'est que pendant un moment, on pensait qu'effectivement la science allait pouvoir tout expliquer. Et ça, il me semble que c'était surtout le cas juste avant la découverte de la physique quantique. Où les physiciens se disaient, bon, bah, maintenant qu'on a à peu près toutes les théories, qu'on a réussi à les unifier, on va pouvoir tout expliquer. De fait, on s'est rendu compte juste après qu'en fait, bah, non, on ne pourra pas tout expliquer, en tout cas dans l'état actuel des choses. Et aujourd'hui encore, beaucoup de gens travaillent sur l'unification des grandes théories physiques. Et on en est encore assez loin. Quand bien même on pourrait tout expliquer, en fait, encore une fois, comme on ne se pose pas exactement le même type de questions, ce n'est pas parce qu'on pourrait tout expliquer d'un point de vue scientifique que forcément ça invaliderait la religion. Au-delà de ça, il y a encore, donc c'est pas quelque chose qui a été mentionné juste avant, le fait d'avoir des scientifiques qui sont croyants. En fait, c'est même c'est assez logique parce qu'en fait, quand on est croyant, on considère qu'il y a une cause à tout ce qui existe, et y compris donc notre existence propre, et que donc un scientifique croyant va trouver presque logique qu'on trouve des grandes règles, enfin qu'en gros le monde soit ordonné, finalement qu'il y ait des lois qui permettent d'expliquer les phénomènes versus juste le hasard ou simplement quelque chose qui est imprévisible. Du coup, d'une certaine façon, encore une fois, je pense que, enfin, en plus de ça, la rationalité n'est pas le propre de la science. C'est-à-dire que la science concentre vraiment sur des phénomènes physiques, choses observables, sinon elle ne se prononce pas. Si tu veux pousser le rationnel dans des domaines métaphysiques, par exemple donc sur les causes, sur les origines, tu vas plutôt te tourner du côté de la philosophie. Et donc, effectivement, d'une certaine façon, tu pourrais dire quand même, si on peut tout expliquer d'un point de vue scientifique, c'est-à-dire réussir à décrire un peu le monde qui nous entoure, à l'aide de différents moyens de captation des phénomènes qu'on peut observer, c'est pas pour ça qu'il va y avoir une opposition en fait, avec la religion. Et à mon sens, moi, donc, en tant que personne qui fait, que croyant qui fait des études scientifiques, pour moi, les deux, c'est un peu quelque part le même but d'une sorte de quête de vérité. Et que donc, effectivement, je leur ai dit, mais pour moi, je pense que même si on peut tout expliquer d'un point de vue scientifique, ce qui n'est pas certain, ça ne mettrait pas trop en cause ma foi.
Bien, merci beaucoup, Nicolas, pour avoir répondu à mes questions et aussi d'être venu aujourd'hui pour discuter avec nous. Ça a été un réel plaisir de pouvoir en apprendre un peu plus sur ce sujet. Tu peux bien sûr, tu vas bien sûr rester jusqu'à la fin de l'émission pour participer au débat. Mais maintenant, on va passer au petit jeu de l'émission. Et aujourd'hui, il vous sera présenté par Margot.
Allez, le jeu.
Oui, donc comme tu l'as dit, maintenant nous allons passer au jeu. Et aujourd'hui, je vous propose de réaliser un vrai ou faux. Donc la première question est la suivante. L'auteur du livre intitulé « L'origine des espèces » qui repose sur la théorie de l'évolution est Charles Darwin. Vrai ou faux ?
Bien sûr que oui. Non.
C'est vrai, cette théorie de l'évolution repose sur le fait que l'évolution est influencée par l'écologie et la sélection naturelle. Cette théorie fait désormais l'unanimité de la communauté scientifique, mais elle a longtemps suscité des résistances dans le monde chrétien, très attaché à une lecture fondamentaliste de la Bible et qui s'obstinait à penser que seul Dieu est à l'origine de l'homme. Maintenant, pour la deuxième question, c'est une question plutôt tournée vers la science. L'eau gèle plus vite que l'eau chaude, pardon, gèle plus vite que l'eau froide. Vrai ou faux ?
C'est vrai.
Oui, c'est vrai. Ce phénomène est connu sous le nom d'effet Memba. Il s'agit d'une constatation empirique, donc c'est quelque chose que l'on a observé, selon laquelle l'eau chaude gèlerait plus vite que l'eau froide dans des conditions de refroidissement similaires. Cet effet, aussi nommé paradoxe Memba, est aussi nommé donc paradoxe Memba, car l'eau doit obligatoirement repasser par une température inférieure en refroidissant, ce qui nous pousse donc à croire qu'elle prendra plus de temps à refroidir qu'à une température plus basse. Mais quand l'on fait l'expérience, on se rend compte en fait que eh bien non, en fait, c'est l'eau chaude qui gèle plus vite. Ce phénomène n'est pas systématique toutefois et il n'apparaît que sous certaines conditions. Pour l'instant, il n'y a pas encore d'explication claire et unanime qui est validée donc par la communauté scientifique pour expliquer ce phénomène. La troisième question concerne donc Galilée. Galilée a émis une théorie selon laquelle la Terre ne serait pas plate, mais qu'elle serait ronde. Vrai ou faux ?
Je crois que c'est faux. Je crois que cette théorie, c'était justement que la Terre n'était pas au centre du système solaire, un truc comme ça. Mais il y a un rapport avec ça.
Ouais, c'est ça, il est passé du géocentrisme à l'héliocentrisme. Mais contrairement à ce que beaucoup de gens pensent et ce que dans la pensée commune, on a tendance à croire, Galilée n'a rien réfuté et on le savait depuis des siècles. C'est bien ça ?
C'est ça, c'est ça. Galilée donc a bien émis la théorie que ce serait la Terre qui tournerait autour du Soleil et non l'inverse. Et donc, il a bouleversé en fait les croyances de son époque qui reposaient donc à la base sur le géocentrisme et il a introduit donc une nouvelle notion, celle de l'héliocentrisme. Quatrième question. La théorie de l'héliocentrisme a valu à Galilée d'être assigné à résidence par l'Inquisition. Vrai ou faux ? Question un peu plus pointue.
Il me semble que c'est vrai, mais je ne suis pas certain.
C'est vrai. Pour avoir critiqué donc, le géocentrisme et soutenu l'héliocentrisme, Galilée a été obligé de reconnaître publiquement donc, que les propos qu'il avait tenus sur l'héliocentrisme étaient faux. Et il a été donc, assigné à résidence et il n'avait plus le droit donc, de s'exprimer sur la façon dont notre monde est organisé. Donc maintenant, pour la cinquième question, Galilée est la première personne à avoir émis la théorie de l'héliocentrisme. Vrai ou faux ?
Je pense que c'est plutôt faux. Je crois que c'est Copernic. Non.
Exactement, c'est Copernic qui a été le premier.
On est trop fort.
C'est ça, c'est faux. C'est Copernic qui a été le premier à proposer un véritable modèle héliocentrique, incluant donc la planète Terre et aussi toutes les planètes connues à l'époque. Sixième question, question plutôt scientifique. Le cerveau est-il l'organe le plus lourd du corps humain ?
Ah, je dirais que non, mais ça dépend de comment tu définis un organe, à mon avis. Mais...
Alors, c'est faux. L'organe le plus lourd du corps humain est la peau, qui pèse en moyenne entre 3 et 4 kilos, tandis que le cerveau, lui, pèse en moyenne 1,4 kilos. Nous allons passer maintenant à notre septième et dernière question, donc, qui est une question plutôt tournée religion. Aujourd'hui, on peut distinguer 5 grands courants religieux qui sont majoritairement pratiqués. Vrai ou faux ?
Oula. Alors.
T'entends quoi par courant religieux en fait ? C'est.
Cinq grandes religions qui sont majoritairement pratiquées dans le monde. Alors bien sûr, il y en a beaucoup, mais est-ce que les plus grandes religions, enfin plus grandes. Donc est-ce que les religions qui sont le plus pratiquées, combien est-ce qu'il y en a ? Est-ce qu'il y en a 5 ?
Je pense que c'est vrai. Je dirais les 3 religions monothéistes, l'hindouisme et le bouddhisme.
Exactement. C'est vrai. Voilà. Donc les 5 religions les plus pratiquées sont le christianisme avec 2,4 milliards de pratiquants. Ensuite, nous avons l'islam avec 2 milliards, puis l'hindouisme avec 1,16 milliard. Ensuite, le bouddhisme avec 507 millions et enfin le judaïsme avec 14,4 millions de pratiquants. Bon, je tiens à préciser que ces chiffres datent de 2021 et qu'ils ont peut-être évolué entre-temps. Voilà, c'est tout pour moi.
Eh bien, merci beaucoup Margot pour ce petit jeu. On a été assez fort finalement. On peut s'applaudir, je pense. J'espère que de votre côté, chers auditeurs, vous avez été meilleurs que nous. Pas sûr. Et après nous être instruits durant ce petit jeu, je vous propose encore une fois de nous faire une petite pause musique. Et encore une fois, c'est Mehdi qui est à la sono.
Yes. Bonjour à tous à nouveau. Et cette fois-ci, je vais vous parler de Dax avec Dear God. On oublie un peu le côté culturel et juste purement musical et l'interprétation, la perception de la religion par les artistes. Et donc, d'innombrables chansons de rap évoquent la religion et quelques-unes s'adressent directement à Dieu. Parmi elles, Dear God de Dax. Donc Dax commence sa chanson en disant à chaque auditeur : je veux juste que ce soit clair, je suis croyant. Mais parfois, c'est difficile. La promotion autour de cette chanson est aussi intéressante que son contenu. Tout a commencé le jour où Dax a posté sur sa page YouTube Community. J'essaie de traduire les traductions en même temps, du coup, ça peut être un peu compliqué. Mais question sérieuse, êtes-vous croyant ? Et donc, il y a un engouement qui s'est créé autour de ce message, avec près de 5000 likes et 1000 commentaires. Et donc au cours des semaines qui ont précédé la sortie de Dear God, il a posté de nombreux messages pour attirer de plus en plus l'attention de ses fans. Et c'est le 10 octobre 2019 que la chanson sort. Et donc dès le début de la chanson, Dax fait savoir à tout le monde que le message et les questions qu'il a postées s'adressent en réalité à Dieu et non pas aux fans. Lorsqu'il demandait « êtes-vous croyant ?» etc. Et donc il explique « je ne veux pas l'entendre de la bouche d'un humain ». Donc il a cette perception-là. Donc il pose ensuite des questions importantes, complexes, telles que « pourquoi tout ce qui te concerne est-il un débat ? Pourquoi ai-je mal ? Pourquoi tout ce qui est bon doit-il toujours changer ?» Et donc la raison pour laquelle cette chanson a un tel impact, c'est qu'il a d'innombrables chansons. Il existe d'innombrables chansons posant des questions, des louanges à Dieu dans la musique. Mais peu de chansons interrogent Dieu directement sur ce qu'il est vraiment. Et donc, prenons par exemple l'exemple d'Only God Can Judge Me, donc pas le tatouage, mais la chanson de Tupac. Alors que le but principal de la chanson est de dire aux gens qu'ils ne se soucient pas de leurs avis, Il loue également Dieu pour être le seul à pouvoir juger les gens pour qui ils sont. Il parle de Dieu, mais ne lui demande jamais qui il est vraiment et quel est son véritable but. Dax demande à l'inverse ce que tout le monde n'ose pas demander. Il veut savoir si Dieu est réel. Alors pourquoi y a-t-il tant de douleurs et de souffrances dans le monde ? Par exemple, il dit « Je suis censé te craindre, mais tu n'en dis pas une, pour rester poli. Alors c'est peut-être toi qui me crains en réalité. » Dax veut savoir pourquoi il devrait croire ou craindre quelqu'un dont l'existence ne peut être prouvée à ses yeux. Le but de Dax est de demander des réponses à Dieu. Il pose ainsi le constat suivant. Tout le monde prie Dieu de l'aider à résoudre des problèmes du monde. Alors pourquoi ne l'a-t-il pas fait ? Dax termine sa chanson en disant « J'espère juste que vous savez que je suis toujours croyant. Alors je terminerai tout cela en disant Amen. » Dax veut s'assurer que les gens savent qu'il ne veut pas faire de mal avec cette chanson. Mais la seule personne dont il est prêt à accepter des réponses est Dieu lui-même. Donc je vais vous laisser directement avec la chanson. I just want to make this clear. I am a believer. But sometimes it gets hard. My name's Dax. Dear God, there's a lot of questions that I have about the past. And I don't want to hear it from a human. You made it, so you're the last person that I'm ever gonna ask. Tell me what's real. Tell me what's fake. Why is everything about you a debate? What's the point of love? Every time I showed it, I was broken, and it's forced me just to only want to hate. Why is it only one you but multiple religions? Why does every conversation end in a division? Why does everybody want to tell us how to live, but they won't listen to the same damn message that they give it? Tell me how to feel. Tell me what's wrong. I tried to call. Pick up the phone. I'm on my own. Everybody says you coming back to man. Why the hell's it taking so long? Why do I hurt? Why is there pain? Why does everything good always have to change? Why does everybody try to profit off another man's work then destroy it just for monetary gain? Tell me, are you black or are you white? I don't even really care. I just really want to know what's right. They've been saying one thing, but I've been looking in the book, and it seems like they've been lying for my whole damn life. Tell me where I'm going. Is it heaven or hell? I just hope this message greets you well. Had a dream that I was walking with the devil. Don't remember how it feels, but I swear that I remember the smell. Looked me right into my eye and told me everything I wanted could be mine if I gave up and decided to sell. But I said I'd rather die than get mine. Now I'm here. No fear, one man with a story to tell. Dear God, where were you when I needed it? When I fucked up and repeated it? When they set the bar and I exceeded it? My life is like a book that they've been judging by a cover, but I've never took the time to fucking read this shit. I remember telling you my goals and my dreams, but you didn't even answer, so I guess you didn't believe in it. I remember sitting with a gun to my head trying to ask you for some help, but I guess you didn't believe in it. I don't want religion, I need that spirituality. I don't want a church, I need people to call a family. I don't want to tell my sins to another sinner just because he's got a robe and he went to some academy. I don't want to read it in the book, I want to hear it from you. Don't want to learn it in my school because they're hiding the truth. Don't want to talk about it to another fucking human being, and that's the only reason that I even step in this booth. Dear God, how do I take this darkness and turn it into light? How do I believe in a concept where I speak to a man I've never seen with my own two eyes? How do I know that religion wasn't made just to separate the world and create a whole disguise just to keep us in these chains while the rich get richer and the poor pray to you and perpetuate a lie? How do I know this ain't some big joke? How can I have faith when there is no hope? How the hell does one man have $100 billion and we still have people on the street that are broke? There's a lot of things I want to talk about and get off my chest. I can't sleep because the devil won't let me rest. I used to know a fucking pastor in a church, and I can still hear the screams of the kids he will fucking molest. Dear God! I'm supposed to fear you, but you ain't said shit, so maybe it's you who actually fears me. I don't know the answer, I just want to see it clearly. So many lies and 1,000 different theories. All I want to know is who really made religion, because I know it wasn't you, but don't nobody believe me. No more lies, no more death. Bring back King, bring back X. Please, dear God, let their souls rest. Protect who's left and watch their steps. Dear God, I don't want to have to ask you again. I just hope that you know that I'm still a believer, so I'll end this all by saying amen.
Eh bien, merci Mehdi de nous avoir partagé encore une fois ce son. Décidément, t'as de très bons goûts musicaux. Alors, vous êtes toujours avec Graphite94.9, merci de nous écouter. On passe maintenant à la deuxième chronique de cette émission, chronique présentée par Anna.
Merci Louis. Alors du coup, je vais essayer de répondre à la question au sein de cette chronique. Comment la religion peut-elle influencer les débats éthiques en sciences ? Du coup, on sait que la religion, elle a joué un rôle important dans la manière dont les débats en sciences se sont déroulés au fil de l'histoire. Depuis des siècles, les croyances religieuses ont influencé la perception de la science et ses implications éthiques. L'affaire Galilée, par exemple, qui a été citée plusieurs fois par Suleiman ou par Margot, survenue au XVIIe siècle, est l'exemple le plus connu de comment la religion peut influencer de manière négative, ici par contre, les débats éthiques en sciences. Donc les croyances religieuses de l'époque ont conduit à sa condamnation par l'Inquisition. Ça démontre ici comment la religion a pu affecter à l'époque la perception de la science et influencer directement la carrière de ce scientifique, car c'est bien entendu pas un cas isolé. Il est important de noter aussi que les religions du monde ont des croyances et des doctrines variées qui peuvent avoir des répercussions sur la manière dont les questions éthiques en science sont abordées. Par exemple, certaines religions ont des points de vue sur la création de l'univers et de la vie qui peuvent entrer en conflit avec certaines théories scientifiques, comme à l'époque avec le modèle héliocentrique proposé par Galilée, ou bien la théorie de l'évolution de Charles Darwin, dont on a parlé précédemment aussi. Donc selon cette théorie de l'évolution, la diversité des espèces émerge au fil du temps par le biais de processus naturels tels que la sélection naturelle, sans nécessiter une intervention divine spécifique. En revanche, dans plusieurs religions, le récit d'Adam et Ève suggère une création instantanée et intentionnelle de l'humanité par un acte divin. De plus, la chronologie de l'évolution s'étend sur des millions d'années, tandis que le récit d'Adam et Ève propose une origine humaine spécifique et relativement récente. Les deux perspectives offrent donc des explications distinctes sur l'origine de l'homme, même si Charles Darwin, du coup, comme tu l'as dit tout à l'heure, Margot, se disait croyant en une force supérieure. Donc ces divergences peuvent évidemment influencer les débats éthiques concernant l'enseignement de la science, notamment dans les écoles ou dans la recherche. La religion peut également jouer un rôle dans la manière dont la science est réglementée par les gouvernements, par les lois. Parfois, les lois éthiques en sciences, telles que l'autorisation de la recherche sur des sujets relativement sensibles, sont influencées par des arguments basés sur des croyances religieuses. On peut penser par exemple à la recherche sur l'embryon humain, qui est réglementée dans différentes régions, dans différents pays, en raison de l'influence des croyances religieuses sur la politique. On peut aussi penser à l'aide à l'avortement, qui a fait débat ces dernières années, où dans certaines religions, il est interdit du fait que des croyances religieuses ont eu un impact sur la politique. Un autre exemple pour démontrer que la religion peut influencer des débats éthiques en science encore à l'heure actuelle est ce qui concerne notamment la modification génétique, donc comme CRISPR-Cas9. Donc je vais expliquer ce qu'est cette nouvelle technologie. En gros, ça correspond à des ciseaux génétiques qui coupent dans l'ADN et qui permettent de modifier le code génétique et donc l'expression génétique. Donc avec cette nouvelle technologie, on pourrait par exemple penser à éradiquer certaines maladies en supprimant certains gènes responsables de cette maladie, ou des trucs un peu plus loufoques comme ramener le mammouth en modifiant le gène de l'éléphant, ou bien en modifiant les gènes du cochon, pouvoir transplanter des organes de cochon à l'homme. Donc évidemment, il y a des groupes religieux qui expriment des préoccupations sur la modification de la création divine, ce qui influence la réglementation de la recherche et de l'application de la modification génétique humaine dans le monde. Et il est essentiel de noter que la manière dont la religion influence ces débats éthiques varie d'une croyance à l'autre. Chaque religion a ses propres enseignements et interprétations, et les perspectives individuelles au sein de chaque foi peuvent également différer. Ainsi, la religion peut être un facteur de divergence, mais elle peut également offrir des réflexions profondes et des cadres moraux pour guider les discussions éthiques en sciences. En conclusion, la religion peut être une source d'influence et de divergence, mais elle peut également contribuer à enrichir le dialogue sur les questions éthiques en sciences. Aujourd'hui encore, elle a un impact significatif sur ces débats, en influençant les positions sur des questions cruciales telles que, comme on l'a dit, la recherche sur des cellules embryonnaires ou la modification génétique, etc. Mais il est essentiel de comprendre ces influences religieuses et de trouver un bon équilibre pour favoriser un dialogue constructif et éthique entre la science et la foi, dans le but d'avoir une société où la science et l'éthique peuvent coexister harmonieusement.
Alors, bah, merci beaucoup Anna pour ta chronique. Maintenant, je crois que c'est l'heure de se tenir à jour des dernières actualités de l'UTC. Oscar va donc nous présenter les dernières actus UTCN.
Merci Louis. En effet, je vais essayer de parler d'actualité à l'UTC parce que pour rappel, on est un groupe d'étudiants de l'UTC. Le problème auquel je me suis heurté, c'est que on enregistre l'émission en novembre et malheureusement, elle va être diffusée début 2024. Donc c'était assez compliqué de trouver des actualités toujours actuelles. Donc je vais parler de ce qui risque de se passer au mois de janvier. Enfin, normalement, ça devrait arriver, mais bon. On n'a pas le recul nécessaire, donc au niveau de l'UTC, premièrement, le mois de janvier, c'est les finaux et la fin du semestre, donc pour tous les étudiants, c'est en fonction de la période exacte, soit un grand stress, soit un grand soulagement, et c'est en tout cas un tournant pour le semestre, voire l'année des études de chacun. Maintenant, une autre chose vachement intéressante qui va se passer au mois de janvier 2024, c'est les journées portes ouvertes de l'UTC, qui se passent le 13 janvier. Donc c'est un moment qui est vachement important, parce que à la fois pour les étudiants, ça permet de voir les personnes qui sont intéressées par leur école et de leur présenter leur cursus, etc. Mais aussi pour toutes les personnes qui sont en Bac plus 2, voire même en Bac plus 1 ou en terminale, découvrir l'école, en apprendre plus, parler avec des étudiants, des professeurs, etc. Et c'est un moment vachement important pour l'école. C'est le premier semestre que je fais à l'UTC, donc je suis assez intéressé par ce moment parce que j'ai fait les journées portes ouvertes du coup au semestre précédent. Enfin, il y a un an du coup, vu que je suis arrivé au début de ce semestre. Mais c'est un moment qui m'a marqué parce que c'est là que j'ai pu comprendre ce que c'est l'UTC et me rendre compte que c'est un environnement qui me plaisait, que c'était des... Enfin, en parlant avec les étudiants, je me rendais compte que c'était une ambiance qui me correspondait, qu'il y avait beaucoup de sujets qui sont abordés en cours, etc., qui sont ceux que j'ai envie de suivre pendant mes études. Et du coup, pour moi, c'est un moment particulièrement intéressant. Alors évidemment, j'y serai pour accueillir les terminales ou les futurs étudiants de l'UTC potentiels. Et je ne sais pas si vous, quelqu'un, a un retour d'expérience à faire particulièrement sur les journées portes ouvertes. Je ne sais pas si vous les avez tous fait, soit en tant qu'étudiant de l'UTC, soit en tant que futur étudiant de l'UTC. Mais je trouve que c'est un sujet intéressant quand même.
À vrai dire, par exemple, j'étais un peu matrixé par l'UTC au lycée et j'ai fait deux portes ouvertes et deux salons juste pour parler aux gens. Et au final, j'ai pas été pris au début. Donc, c'est ultra intéressant. On discute avec plein de gens, on parle avec des profs, des élèves. Ils nous présentent un peu les différentes spécialités et tout. Et le système, donc, c'est intéressant. À savoir, je le répète, mais au cas où vous ne le savez pas, on est une émission créée dans le cadre d'un UV, dans le cadre d'une matière à l'UTC. Et où on n'est que des étudiants en école d'ingénieur. Donc voilà pourquoi on parle de l'UTC.
Pour le contexte, oui.
Voilà.
Ok, merci beaucoup. Après, il y a aussi autre chose qui m'a marqué pour parler très rapidement de ça, c'est les entretiens à l'UTC, c'est-à-dire que quand on veut rentrer à l'UTC, on a des entretiens à faire en groupe avec des personnes qu'on ne connaît pas du tout sur un sujet, bon, dépendamment des années, ça ne s'est peut-être pas passé pareil, mais pour le coup, moi, c'était un sujet qu'on avait choisi, qui devait tout de même avoir un lien avec la science pour rester cohérent, mais qu'on avait choisi dans le groupe. Et j'ai trouvé ce moment vachement intéressant, et c'est aussi ce qui m'a donné vraiment envie d'étudier à l'UTC, parce que ça montre que c'est du travail de groupe, on est choisi pour nos capacités à s'entraider avec les autres étudiants, etc. Et ça m'a beaucoup intéressé ce moment. Je ne sais pas si vous avez des expériences similaires ou ce que vous en pensez.
Du coup, moi j'ai aussi passé donc un entretien pour arriver à l'UTC, et en fait nous nos entretiens étaient en visio, donc c'était pas vraiment évident en fait de pouvoir discuter avec les autres. Et pourtant le groupe sur lequel je suis tombée était vraiment un super bon groupe, on a vraiment super bien échangé, et c'était vraiment en fait un vrai débat. Et en fait, on en oubliait presque que c'était, entre guillemets, un entretien pour pouvoir rentrer dans l'école. C'était vraiment un échange entre étudiants. Et même, en fait, pendant ces entretiens, en fait, on est accompagné par une psychologue. Et en fait, elle nous a interrompu qu'à la fin, en disant « Bon, bah, j'ai rien dit parce qu'en fait, vous êtes partie tout seul sur votre sujet. » Et bah, justement, en fait, les personnes avec qui j'ai passé mon entretien, je les ai retrouvées, en fait, quand je suis arrivée à l'UTC. Et aujourd'hui, bah, c'est les personnes avec qui je passe la plupart de mon temps à l'UTC. Donc, franchement, non, c'est chouette.
Ok, parfait.
Moi, j'avais une petite expérience différente. C'était plutôt que chacun voulait placer ce qu'il voulait dire pour justement être pris, parce que on se sentait un peu en compétition. Et du coup, moi, j'avais quasiment pas parlé parce que je me disais, bah, tout le monde veut parler, mais moi, je me sens pas dans cette compétition et tout. Et du coup, j'avais pas trop parlé pendant.
Ouais, je comprends. J'ai un ami aussi qui est pas à l'UTC, mais qui avait fait les entretiens et qui me disait que pendant son entretien de groupe, bah, il était que avec des gens qui étaient fils d'ambassadeurs, qui avaient fait des choses particulières dans leur vie. Et lui, bah, il était juste lycéen normal de province. Et du coup, il se sentait un peu, pas forcément exclu, mais c'était bizarre pour lui de se dire que tous les gens autour de lui, ils avaient des aventures à raconter, etc. Et que lui, bah, il était juste normal. Bon, après, au final, il a été accepté quand même, mais sur le moment, il s'est posé des questions.
Ouais, moi c'était un peu ça aussi, mais du coup c'est là qu'on voit que c'est pas mal l'UTC, c'est parce qu'ils prennent tous les horizons en fait, même ceux qui ont des vies banales ou quoi, c'est pas ça qui va qui va faire le choix, quoi.
Parfait, bah merci beaucoup.
Eh bien merci à toi Oscar de nous avoir entre guillemets tenu au courant des actus de l'UTC et de nous avoir partagé ton expérience UTCN. Vous êtes toujours avec Graphite sur la 94.9, pardon. Merci d'être là. Bon, les amis, je pense que vous avez compris que dans cette émission, on aime beaucoup la musique. Et donc, on aimerait vous partager un peu cette passion qui nous unit tous. Ainsi, je vais laisser la place à Mehdi, qui va nous présenter la dernière musique de cette émission.
Effectivement, je vais vous présenter cette dernière recommandation. Et donc j'hésitais, enfin, je voulais parler de l'homosexualité dans la musique et de l'homosexualité dans la religion. Et donc j'hésitais entre deux morceaux, Take Me to Church de Ozier, qui parle de ça en réalité. Donc étant donné que le morceau faisait 5 minutes et que le temps est compté, je me suis redirigé vers Bad Religion de Frank Ocean, et d'autant plus que c'est un très bon morceau. Donc Frank Ocean, dans son morceau, parle de ses difficultés en tant qu'homosexuel religieux, qui doit se cacher pour ne pas être jugé par son entourage. Il fait référence à Jonestown, sa ville, en disant c'est le cyanure dans son gobelet en polystyrène, dans le sens où il serait prêt à mourir pour l'amour de Dieu et de son entourage, mais Dieu et les pratiquants de sa religion ne l'aimeraient jamais en retour autant parce qu'il est gay. Dans ce sens, il dit « L'amour non partagé n'est rien d'autre qu'une secte d'un seul homme. Il se dit obsédé par l'amour de Dieu et il décrit ça comme une sorte de secte parce qu'il consacre sa vie à essayer de prouver qu'il en est digne. Mais il juge que sa valeur n'est jamais appréciée comme elle le devrait. » Dans son texte, on ressent la difficulté qu'il a à jongler avec sa vie d'homosexuel refoulé, d'artiste et la façade d'hétérosexualité qui s'impose à lui. Il décrit sa perception de son culte comme une mauvaise religion, par Bad Religion, que c'est une mauvaise religion que d'être amoureux de Dieu quand Dieu pense qu'il en est une vile créature indigne d'être aimée selon ses termes. Et donc je vais vous laisser directement avec cet dernier extrait. Taxi driver, be my shrink for the hour. Leave the meter running. It's rush hour. So take the streets if you wanna. Just outrun the demons, could you? He said, Allahu Akbar. I told him, don't curse me. But boy, you need prayer. I guess it couldn't hurt me. If it brings me to my knees, it's a bad religion. Ooh, the sun required enough to me.
Eh bien, merci encore une fois à toi, Mehdi, de nous avoir concocté cette belle sélection de sons. Je crois bien, les amis, qu'il est l'heure de passer au débat. On va donc passer quelques minutes ensemble à débattre sur un sujet évidemment lié à la science et à la religion. Et aujourd'hui, il sera animé par Margot.
Donc tout d'abord, avant de vous donner le sujet de notre débat du jour, je tenais donc à vous rappeler certains faits. Donc au cours de l'histoire, la religion et la science se sont beaucoup opposées, et ce à de nombreuses reprises. Et ce conflit perpétuel a mené à de nombreux débats, souvent houleux, donc comme on en a pu en parler lors de notre émission. Toutefois, j'aimerais que, au cours de ce débat, nous envisagions plutôt la science et la religion comme une union, et que donc nous pensions à ce qui les unit. Et donc le débat d'aujourd'hui va porter sur une citation d'Albert Einstein qui a dit « La science sans religion est boiteuse, la religion sans science est aveugle ». Que pensez-vous de cette phrase ?
Donc moi je pense que ça revient à peu près à ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est-à-dire que la religion en elle-même ne donne pas énormément d'informations sur le monde autour de nous, et les seules contradictions qu'on pourrait avoir entre quelque part la religion et la science, ce serait une opposition en fait entre des croyances religieuses. Donc en fait, disons par exemple, si on reprend l'exemple d'une des chroniques sur le livre de la Genèse et le fait que dans la Bible il est décrit que le monde a été créé en 7 jours. En fait, l'opposition qu'il y a entre ça et les théories de l'évolution, par exemple, ou les théories qui nous donnent globalement l'âge de l'univers et de la Terre, c'est plus une opposition entre toi, comment la personne a interprété l'écrit dans la Bible, et la science. C'est-à-dire que le livre de la Genèse en tant que tel, c'est pas censé être lu comme quelque chose de littéral. Et ça, c'est vrai pour pas mal de livres dans la Bible, c'est qu'en fait... il faut remettre dans le contexte de l'époque les gens, comment ils l'ont écrit à l'époque, quels étaient les styles littéraires qu'ils utilisaient et quelle compréhension ils avaient du monde avant d'essayer de formuler une croyance religieuse. Et donc en fait, ce qui se passe pour moi avec cette citation, c'est que les scientifiques, enfin, en tout cas, je pense que c'est Einstein, en gros, remet bien ça en lumière en disant qu'en fait, si opposition il y a entre les deux, c'est plus entre la croyance, donc l'interprétation que moi j'ai à partir de ma foi, de ma croyance religieuse, enfin de cette conviction que Dieu existe. Et donc, j'en déduis des choses sur lui et sur le monde qui m'entoure par rapport à ça. Mais ce n'est pas une opposition entre la religion et la science. Donc, dans un sens, il y a ça. Et par contre, évidemment, si on est rationnel, on ne peut pas simplement se baser... Enfin, en gros, oublier la science et dire, bah, de toute façon, moi, j'ai la vérité et on s'en fiche de ce que dit la science. Évidemment que rationnellement, si on te montre des preuves devant toi, tu ne peux pas juste les ignorer. Et donc... C'est pour ça que je suis assez d'accord avec cette citation, c'est que la foi sans la science, en fait, enfin la religion sans la science, tu es un peu en train de construire un système tout seul dans ton coin, dans ta tête, sans tenir compte des données d'entrée du monde réel. Mais dans l'autre sens, imaginer que la science seule va te donner toutes les réponses, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est pas, enfin, la science ne te permet pas de répondre à toutes les questions. Donc moi, je suis plutôt d'accord avec cette citation.
Et quand tu dis que les sujets abordés en science et par la religion ne sont pas les mêmes. Comment de ce fait il y a eu, enfin, pas exactement, comment il y a eu des discordes à ce sujet, toujours des oppositions au fil de l'histoire, avec plein d'événements majeurs, avec Copernic, Galilée.
Je pense que si on prend par exemple l'exemple de Galilée, l'opposition, encore une fois, elle est entre une croyance religieuse qui jusque-là était globalement rationnelle, étant donné qu'ils n'avaient pas les connaissances pour supposer que, enfin, pour pouvoir discriminer entre l'hypothèse que la Terre est au centre du système solaire et le fait que ce soit pas vrai. Et du coup, l'erreur qui a été faite, c'est plus de pas prendre en compte, justement, comme je disais, les éléments rationnels qui te permettaient de dire que la croyance que tu avais jusqu'ici, qui était globalement justifiée, ne l'est plus. Et donc, les oppositions qu'il y a, pour moi, c'est vraiment entre le fait que tu n'avais pas à remettre en cause une certaine croyance, alors que tu devrais.
D'accord. Et aussi, je ne sais pas si j'ai bien compris, mais quand tu parlais tout à l'heure du fait que donc on sait l'âge de l'univers, etc., mais que dans la Bible, on dit que l'univers a été créé en 7 jours, etc., que toi, tu as ta propre interprétation de la chose. Mmh. Et en fait, tu as une interprétation philosophique un peu de chaque passage.
C'est un peu ça. En fait, ce qui se passe, c'est qu'en tout cas dans l'Église catholique, il y a quand même des règles sur comment tu lis la Bible. En gros, typiquement, la lecture fondamentaliste, à mon sens, d'après ce que j'ai compris des règles justement données, n'est pas valide. Pour pouvoir interpréter la Bible, qui pour nous donc est un message révélé par Dieu à des hommes, donc ça c'est important parce que du coup, on remet dans le contexte historique et culturel, et le fait que aussi chaque personne est limitée. Donc la personne qui écrit, c'est un livre de la Bible, a reçu une part de vérité divine, mais qui ne peut pas appréhender totalement. Et donc il va en comprendre une partie, en écrire une partie. Et nous, ensuite, c'est notre travail aussi de remettre ça, du coup, par rapport à lui, comment il vivait et comment il voyait les choses. Et aussi, surtout, ce qui est important, dans le cas de la Bible, c'est de bien comprendre chaque livre est différent et écrit avec une personne différente, et surtout dans un style littéraire différent. Donc, il y a certains livres de la Bible, comme le livre d'Esther, par exemple, qui ressemble un peu à une tragédie, si tu veux, presque une pièce de théâtre, avec des dialogues, etc. Il est évident que tu ne vas pas lire une pièce de théâtre de la même façon que tu vas lire un récit historique qui est une bataille, par exemple. Et donc, ce n'est pas pour ça qu'en gros, la pièce de théâtre est fausse en tant que telle, c'est juste qu'en gros le niveau de lecture est différent. Et donc typiquement le livre de la Genèse, en fait, c'est un mythe de la création du monde, mythe dans le sens pas c'est faux, mais c'est une façon d'expliquer l'origine du monde. Et l'Église catholique ne dit absolument pas, sinon ce serait complètement, pour le coup, complètement contradictoire avec ce que dit les sciences, ne dit pas du tout que la Genèse décrit factuellement ce qui s'est passé au début de l'univers. Ce que dit, enfin ce que pensent en tout cas les catholiques, c'est que dans ce récit, il y a des choses qui sont vraies. Et maintenant, c'est à chacun d'apprécier comment est-ce que tu fais le lien en fait avec ce que tu sais.
Merci beaucoup. Je vais être obligé de te couper parce qu'il nous reste un dernier petit passage. Et merci à vous tous d'avoir participé, au débat, pardon. Et merci à toi, Margot, d'avoir animé ce débat. Avant de terminer donc cette émission, j'aimerais vous présenter quelques petits films que je vous recommande vivement de regarder si le sujet d'aujourd'hui vous a captivé. La première recommandation que j'ai à vous faire, c'est celle du film The Theory of Everything. C'est un film biographique qui retrace la vie du physicien Stephen Hawking. Ce film se concentre sur la vie du physicien et sa relation avec sa femme. Mais il aborde aussi des questions sur l'univers, la foi et la science. Stephen Hawking, d'ailleurs, à l'origine de la citation « Il n'y a pas de Dieu, personne n'a créé l'univers et personne ne dirige notre destin ». Le deuxième film dont je voudrais vous parler, c'est le film Agora. C'est un film paru en 2009 qui nous replace dans un contexte historique complexe dans lequel l'Égypte est sous domination romaine. Et la trame principale tourne autour d'un conflit entre deux hommes pour l'amour d'une femme. Mais ce qui nous intéresse avec ce film, c'est la tension qu'il exploite entre l'astronome Hypatie d'Alexandrie et les autorités religieuses de l'époque, mettant en lumière les conflits entre la science et la religion. Et enfin, le dernier film que j'aimerais vous présenter est The Tree of Life. Dans ce film, on ne cherche pas à opposer la religion et la science, mais plutôt à les intégrer dans une vision globale de l'existence. Pour y arriver, le film aborde différents thèmes, tels que l'exploration de l'origine de la vie, la place de l'homme dans l'univers, la foi, etc. Et dans ce film, on a une sorte de juxtaposition, de l'expérience humaine et des vastes images de l'univers afin donc d'explorer des questions profondes sur la religion et la science. Sur ces 12 paroles, les amis, se finit l'émission d'aujourd'hui. J'espère que cette dernière vous aura plu et je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode des Échos de l'Innovation.